Chapitre 2. Il avait été décidé quelques mois auparavant qu'on ne m'enverrait pas au collège et que j'aurais un précepteur. Mon père n'approuvait pas ce genre d'éducation, mais il s'était heurté à de telles crises qu'il avait pris le parti de ne plus résister, et de même qu'il avait sacrifié sa domination de mari sur sa femme, il sacrifia ses droits de père sur moi. J'eus un précepteur, mon père voulait rester fidèle, même dans la mort, au désir de ma mère. Mais je vis arriver un matin, un monsieur très grand, très grave, très blond, très rasé, qui portait de lunettes bleues. Monsieur Jules Ricard avait des idées très arrêtées sur l'instruction, une raideur de pion, une importance sacerdotale, qui, loin de m'encourager à apprendre, me dégoûtèrent vite de l'étude. On lui avait dit, sans doute, que mon intelligence était paresseuse et tardive, et comme je ne comprais rien à ses premières leçons, il s'en tint à ce premier jugement et me traita ainsi qu'un enfant idiot. Jamais il ne lui vint à l'esprit de pénétrer dans mon jeune cerveau, d'interroger mon cœur. Jamais il ne se demanda si sous ce masque triste d'enfant solitaire, il n'y avait pas des aspirations ardentes, devançant mon âge, toute une nature passionnée et inquiète, ivre de savoir, qui s'était intérieurement et mal développée dans le silence des pensées contenues et des enthousiasmes muets. M. Rigard m'abrutit de grec et de latin, et ce fut tout. Ah, combien d'enfants qui, compris et dirigés, seraient de grands hommes peut-être, s'il avait été déformé pour toujours par cet effroyable coup de pouce au cerveau du père imbécile ou du professeur ignorant. Est-ce donc tout que de vous avoir bestialement engendré un soir de rute, et ne faut-il donc pas continuer l'œuvre de vie en vous donnant la muraille intellectuelle pour la fortifier, en vous armant pour la défendre? La vérité est que mon âme se sentait seule davantage auprès de mon père qu'auprès de mon professeur. Pourtant, il faisait tout ce qu'il pouvait pour me plaire. Il s'acharnait à m'aimer stupidement. Mais lorsque j'étais avec lui, il ne trouvait jamais rien à me dire que des contes bleus, de sottes histoires de croque-mitaine, des légendes terrifiantes de la Révolution de 1848 qui lui avaient laissé dans l'esprit une épouvante invincible, ou bien le récit des brigandages d'un nommé Lebec, grand républicain, qui scandalisait le pays par son opposition acharnée au curé et son obstination les jours de fête-dieu à ne pas mettre de draps fleuris le long de ses murs. Souvent, il m'emmenait dans son cabriolet lorsqu'il avait affaire au dehors et, si, troublé par ce mystère de la nature qui s'élargissait chaque jour autour de moi, je lui adressais une question, puis je savais comment y répondre et s'en tirait ainsi. « Oh, tu es trop petit pour que je t'explique ça, quand tu seras plus grand. » Et tout chétif, à côté du gros corps de mon père, qui oscillait suivant les chaos du chemin, je me recognais au fond d'une cabriolet, tandis que mon père tuait avec le manche de son fouet les temps qui s'abattaient sur la croupe de notre jument. Et il disait chaque fois, « Oh, jamais je n'ai vu autant de ces vilaines bêtes. Nous aurons de l'orage, c'est sûr. » Dans l'église de Saint-Michel, au fond d'une petite chapelle éclairée par les lueurs rouges d'un vitrail, sur un autel orné de broderies et de vases pleins de fleurs en papier, se dressait une statue de la Vierge. Elle avait les chairs roses, un manteau bleu constellé d'argent, une robe lilas dont les plis retombaient chastement sur des sandales dorées. Dans ses bras, elle portait un enfant rose et nu, à la tête nimbée d'or, et ses yeux reposaient extasiés sur l'enfant. Pendant plusieurs mois, cette Vierge de plâtre fut ma seule amie, et tout le temps que je pouvais dérober à mes leçons, je le passais en contemplation devant cette image aux couleurs si tendres. Elle me paraissait si belle, si bonne et si douce qu'aucune créature humaine n'eût pu rivaliser de beauté, de bonté et de douceur avec ce morceau de matière inerte et peinte qui me parlait un langage inconnu et délicieux et d'où m'arrivait comme une odeur grisante d'encens et de myrrhe. Près d'elle, j'étais vraiment un autre enfant. Je sentais mes joues devenir plus roses, mon sang battait plus fort dans mes veines, mes pensées se dégageaient plus vives et légères. Il me semblait que le voile noir qui pesait sur mon intelligence se levait peu à peu, découvrant des clartés nouvelles. Marie s'était faite la complice de mes échappées vers l'église. Elle me conduisait souvent à la chapelle, où je restais des heures à converser avec la Vierge, tandis que la vieille bonne, à genoux sur les marches de l'autel, récitait dévotement son chapelet. Il fallait qu'elle m'arrachât de force à cette extase, car je n'eusse point songé, je crois bien, retourner à la maison, enlevé que j'étais dans des rêves qui me transportaient au ciel. Ma passion pour cette Vierge devint si forte que, loin d'elle, j'étais malheureux et que j'eusse voulu ne la quitter jamais. « Bien sûr que M. Jean se fera prêtre, » disait la vieille Marie. C'était comme un besoin de possession, un désir violent de la prendre, de l'enlacer, de la couvrir de baisers. J'eus l'idée de la dessiner avec quel amour. Il était impossible de vous l'imaginer. Lorsque, sur mon papier, elle eut pris un semblant de forme grossière, oh, ce furent des joies sans bornes. Tout ce que je pouvais dépenser d'efforts, je l'employais dans ce travail que jugeais admirable et surhumain. Plus de 20 fois, je recommençais le dessin, m'irritant contre mon crayon qui ne se pliait point à la douceur des lignes, contre mon papier où l'image n'apparaissait pas vivante et parlante, comme je l'eusse désiré. Je m'acharnais. Ma volonté se tendait vers ce but unique. Enfin, je parvins à donner une idée à peu près exacte et combien naïve de la Vierge de plâtre. Et brusquement, je n'y pensais plus. Une voix intérieure m'avait dit que la nature était plus belle, plus attendrie, plus splendide, et je me mis à regarder le soleil qui caressait les arbres, qui jouait sur les tuiles des toits, adorait les herbes, illuminait les rivières, et je me mis à écouter toutes les palpitations de vie dont les êtres sont gonflés et qui font battre la terre comme un corps de chair. Les années s'écoulèrent ennuyeuses et vides. Je restais sombre, sauvage, toujours enfermé en dedans de moi-même, aimant à courir les champs, à m'enfoncer en plein cœur de la forêt. Il me semblait que là, du moins, bercé par la grande voix des choses, j'étais moins seul et que je n'écoutais moins mieux vivre. Sans être doué de ce don terrible qu'ont certaines natures de s'analyser, de s'interroger, de chercher sans cesse le pourquoi de leurs actions, je me demandais souvent qui j'étais, ce que je voulais. Hélas, je n'étais personne et je ne voulais rien. Mon enfance s'était passée dans la nuit, mon adolescence se passa dans le vague. N'ayant pas été un enfant, je ne fus pas davantage un jeune homme. Je vécus en quelque sorte dans le brouillard. 1000 pensées s'agitaient en moi, mais si confuses que je ne pouvais en saisir la forme. Aucune ne se détachait nettement de ce fond de brume opaque. J'avais des aspirations, des enthousiasmes, mais il m'eût été impossible de les formuler, d'en expliquer la cause et l'objet. Il m'eût été impossible de dire dans quel monde de réalité ou de rêve il m'emportait. J'avais des tendresses infinies où mon être se fondait, mais pour qui et pourquoi, je l'ignorais. Quelquefois, tout d'un coup, je me mettais à pleurer abondamment. Mais la raison de ces larmes, en vérité, je ne la savais pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que je n'avais de goût à rien, que je n'apercevais aucun but dans la vie, et que je me sentais incapable d'un effort. Les enfants se disent « Oh, moi, je serai général, évêque, médecin, aubergiste. » Moi, je ne me suis rien dit de semblable. Jamais, jamais, je ne dépassais la minute présente. Jamais, je ne risquais un coup d'œil sur l'avenir. L'homme m'apparaissait ainsi qu'un arbre qui étend ses feuilles et pousse ses branches dans un ciel d'orage, sans savoir quelles fleurs fleuriront à son pied, quels oiseaux chanteront à sa cime ou quel coup de tonnerre viendra le terrasser. Et pourtant, le sentiment de la solitude morale où j'étais m'accablait et m'effrayait. Je ne pouvais ouvrir mon cœur ni à mon père, ni à mon précepteur, ni à personne. Je n'avais pas un camarade, pas un être vivant en état de me comprendre, de me diriger, de m'aimer. Mon père et mon précepteur se désolaient de mon peu de disposition, et dans le pays je passais pour un maniaque et un faible d'esprit. Malgré tout, je fus reçu à mes examens, et bien que ni mon père ni moi n'eussions l'idée de la carrière que je pourrais embrasser, j'allais faire mon droit à Paris. « Le droit mène à tout, » disait mon père. Paris m'étonna. Il me fit l'effet d'un grand bruit et d'une grande folie. Les individus et les foules passaient, bizarres, incohérents, effrénés, se hâtant vers des besognes que je me figurais terribles et monstrueuses. Heurté par les chevaux, coudoyé par des hommes, étourdi par le ronflement de la ville, en branle comme une colossale et démoniaque usine, aveuglé par l'éclat des lumières inaccoutumées, je marchais en un rêve inexplicable de dément. Cela me surprit beaucoup d'y rencontrer des arbres. Comment avait-il pu germer là, dans ce sol de pavé, s'élever parmi cette forêt de pierre, au milieu de ce grouillement d'hommes, leurs branches fouettées par un vent mauvais? Je fus très longtemps à m'habituer à cette existence qui me paraissait le renversement de la nature. Et, du sein de cet enfer bouillonnant, ma pensée retournait souvent à ces champs paisibles de là-bas, qui soufflaient à mes narines la bonne odeur de la terre remuée et féconde, à ces coins de bois verdissants où je n'entendais que le léger frisson des feuilles, et de temps en temps, dans les profondeurs sonores, les coups sourds de la cognée et la plainte presque humaine des vieux chênes. Cependant, la curiosité de connaître me chassait de la petite chambre que j'habitais, rue Oudinot. J'arpentais les rues, les boulevards, les quais, emporté dans une marche fiévreuse, les doigts agacés, le cerveau pour ainsi dire écrasé par la gigantesque et nerveuse activité de Paris, tous les sens en quelque sorte déséquilibrés par ses couleurs, par ses odeurs, par ses sons, par la perversion et par l'étrangeté de ce contact si nouveau pour moi. Plus je me jetais dans les foules, plus je me grisais du tapage, plus je voyais ces milliers de vies humaines passer et se frôler, indifférentes l'une à l'autre, sans un lien apparent, puis d'autres surgir, disparaître et se renouveler encore, toujours, et plus je ressemblais à l'accablement de mon inexorable solitude. À Saint-Michel, si j'étais bien seul, du moins, j'y connaissais les êtres et les choses. J'avais partout des points de repère qui guidaient mon esprit, un dos de paysan penché sur la grève, une masure au détour d'un chemin, un pli de terrain, un chien, une marnière, une teigne de charme. Tout m'y était familier, sinon cher. Mais à Paris, tout m'était inconnu et hostile. Dans l'effroyable hâte où il s'agitait, dans l'égoïsme profond, dans le vertigineux oubli des uns des autres, où ils s'étaient précipités. Mais comment retenir un seul instant l'attention de ces gens, de ces fantômes? Je ne dis pas l'attention d'une tendresse ou d'une pitié, mais d'un simple regard. Un jour, je vis un homme qui en tuait un autre. On l'admira et son nom fut aussitôt dans toutes les bouches. Le lendemain, je vis une femme qui levait ses jupes en un geste obscène. La foule lui fit cortège. Étant gauche, ignorant des usages du monde, très timide, j'eus difficulté à me créer des relations. Je ne mis pas une seule fois les pieds dans les maisons où j'étais recommandé, de crainte qu'on ne m'y trouvât ridicule. J'avais été invité à dîner chez une cousine de ma mère, riche, qui menait grand train. La vue de l'hôtel, les valets de pied dans le vestibule, les lumières, les tapis, le parfum lourd des fleurs étouffées, tout cela me fit peur et je m'enfuis. Bousculant dans l'escalier, une femme au manteau rouge qui montait et se prit à rire de ma mine effarée. La gaieté bruyante de ces jeunes gens, mes camarades d'école, que je rencontrais au cours, au restaurant, dans les cafés, me déplut aussi. La grossièreté de leur plaisir me blessa, et les femmes, avec leurs yeux bistrés, leurs lèvres trop peintes, avec le cynisme le débraillé de leurs propos et de leurs tenues, ne me tentèrent point. Pourtant, un soir, énervé, poussé par un rude subit de la chair, j'entrai dans une maison de débauche, et je ressortis honteux, mécontent de moi, avec un remords et la sensation que j'avais de l'ordure sur la peau. Quoi ? C'était de cet acte imbécile et malpropre que les hommes naissaient ? À partir de ce moment, je regardais davantage les femmes, mais mon regard n'était plus chaste, et s'attachant sur elles comme sur des images impures, il allait chercher le sexe et la nudité sous l'ajustement des robes. Je connus alors des plaisirs solitaires qui me rendirent plus morne, plus inquiet, plus vague encore. Une sorte de torpeur crapuleuse m'envahit. Je restai couché plusieurs jours de suite, m'enfonçant dans l'abrutissement des sommeils obscènes, réveillé de temps en temps par des cauchemars subis, par des serrées violentes au cœur qui me faisaient couler la sueur sur la peau. Dans ma chambre, au rideau fermé, j'étais ainsi qu'un cadavre qui aurait eu conscience de sa mort et qui, du fond de la tombe, dans le noir effrayant, entend au-dessus de lui rouler le piétinement d'un peuple et gronder les rumeurs d'une ville. Quelquefois, m'arrachant à cet anéantissement, je sortais. Mais que faire? Où donc aller? Tout m'était indifférent et je n'avais aucun désir, aucune curiosité. Le regard fixe, la tête pesante, le sang lourd, je marchais au hasard devant moi et je finissais par m'écrouler dans le Luxembourg sur un banc, sénilement tassé sur moi-même, immobile pendant de longues heures, sans rien voir, sans rien entendre, sans me demander pourquoi des enfants étaient là qui couraient, pourquoi des oiseaux étaient là qui chantaient, pourquoi des couples passaient. Naturellement, je ne travaillais pas, et je ne songeais à rien. La guerre vint, puis la défaite. Malgré les résistances de mon père, malgré les supplications de la vieille Marie, je m'engageais. Notre régiment était ce qu'on appelait alors un régiment de marche. Il avait été formé au Mans, péniblement, de tous les débris de corps, des éléments disparates qui encombraient la ville. Des zouaves, des moblots, des francs-tireurs, des gardes forestiers, des cavaliers démontés, jusque à des gendarmes, des espagnols et des valaques. Il y avait de tout. Et ce tout était commandé par un vieux capitaine d'habillement, promu, pour la circonstance, au grade de lieutenant-colonel. En ce temps-là, ces avancements n'étaient point rares. Il fallait bien boucher les trous creusés dans la chair française par les canons de Wissembourg et de Sedan. Plusieurs compagnies manquaient de capitaines. La mienne avait à sa tête un petit lieutenant de mobile, jeune homme de 20 ans, frêle et pâle, et si peu robuste qu'après quelques kilomètres, il s'essoufflait, tirait la jambe et terminait l'étape dans un fourgon d'ambulance. Le pauvre petit diable! Il suffisait de le regarder en face pour le faire rougir. Et jamais il ne se fut permis de donner un ordre dans la crainte de se tromper et d'être ridicule. Nous nous moquions de lui à cause de sa timidité et de sa faiblesse, et sans doute aussi parce qu'il était bon et qu'il distribuait quelquefois aux hommes des cigares et des suppléments de viande. Je m'étais fait rapidement à cette vie nouvelle, entraîné par l'exemple, surexcité par la fièvre du milieu. En lisant les récits navrants de nos batailles perdues, je me sentais emporté comme dans une ivresse, sans cependant mêler à cette ivresse l'idée de la patrie menacée. Ne resta même moi dans le Mans à nous équiper, à faire l'exercice, à courir les cabarets, les maisons de femmes. Enfin, le 3 octobre, nous partîmes. Ramassis de soldats errants, de détachements sans chef, de volontaires vagabonds, mal équipés, mal nourris, et le plus souvent pas nourris du tout, sans cohésion, sans discipline, chacun ne songeant qu'à soi, et poussé par un sentiment unique d'implacable, de féroce égoïsme. Celui-ci, coiffé d'un bonnet de police, celui-là, la tête entortillée d'un foulard, d'autres vêtus de pantalons d'artilleur et de vestes de tringlot, nous allions par les chemins, déguenillés, harassés, farouches. Depuis 12 jours que nous étions incorporés à une brigade de formation récente, nous roulions à travers la campagne, affolés, pour ainsi dire, sans but. Aujourd'hui à droite, demain à gauche, un jour fournissant des étapes de 40 kilomètres, le jour suivant, reculant d'autant, nous tournions sans cesse dans le même cercle, pareil à un bétail débandé qui aurait perdu son pasteur. Notre excitation était bien tombée. 3 semaines de souffrance avaient suffi pour cela. Avant que nous eussions entendu gronder le canon et siffler les balles, notre marche en avant ressemblait à une retraite d'armées vaincues, hachées par les chars de cavalerie, précipitées dans le délire des bousculades, le vertige des souffles qui peut. Que de fois j'ai vu des soldats se débarrasser de leurs cartouches qu'ils semaient au long des routes. « À quoi ça me sert-il ? » disait l'un d'eux. « J'en ai besoin que d'une seule pour casser la gueule du capitaine la première fois que nous nous battrons. » Le soir, au camp, accroupis autour de la marmite, ou bien allongés sur la bruyère froide, la tête sur le sac, ils pensaient à la maison d'où on les avait arrachés violemment. Tous les jeunes gens, aux bras robustes, étaient partis du village. Beaucoup déjà dormaient dans la terre, là-bas, éventrés par les obus. Les autres, les reins cassés, erraient, spectres de soldats, par les plaines et par les bois, attendant la mort. Dans les campagnes en deuil, il ne restait que des vieux, davantage courbés, et des femmes qui pleuraient. L'aire des granges où l'on bat le blé était muette et fermée. Dans les champs déserts où poussaient les herbes stériles, on n'apercevait plus, sur la pourpre du couchant, la silhouette du laboureur qui rentrait à la ferme au pas de ses chevaux fatigués. Et des hommes avec de grands sabres venaient, qui prenaient un jour les chevaux, qui un autre jour vidaient l'étable au nom de la loi, car il ne suffisait pas à la guerre qu'elle se gorgeât de viande humaine. Il fallait qu'elle dévorât les bêtes, la terre, tout ce qui vivait dans le calme, dans la paix du travail et de l'amour. Et au fond du cœur de tous ces misérables soldats, dont les feux sinistres du camp éclairaient les figures amaigries et les dos avachis, une même espérance régnait, l'espérance de la bataille prochaine, c'est-à-dire la fuite, la crosse en l'air et la forteresse allemande. Pourtant, nous préparions la défense des pays que nous traversions et qui n'étaient point encore menacés. Nous imaginions pour cela d'abattre les arbres et de les jeter sur les routes. Nous faisions sauter les ponts, nous profanions les cimetières à l'entrée des villages, sous prétexte de barricades, et nous obligions les habitants, baïonnettes aux reins, à nous aider dans la dévastation de leurs biens. Puis nous repartions, ne laissant derrière nous que des ruines et que des haines. Je me souviens qu'il nous fallait une fois raser jusqu'au dernier baliveau un très beau parc afin d'y établir des gourbis que nous n'occupâmes point. Nos façons n'étaient point pour rassurer les gens. Aussi, à notre approche, les maisons se fermaient, les paysans enterraient leurs provisions. Partout des visages hostiles, des bouches hargneuses, des mains vides. Il y eut entre nous des rixes sanglantes pour un pot de rillettes découvert dans un placard, et le général fit fusiller un vieux bonhomme qui avait caché dans son jardin, sous un tas de fumier, quelques kilogrammes de lard salé. Le 1er novembre, nous avions marché toute la journée, et vers 3 heures, nous arrivions à la gare de la Loupe. Il y eut d'abord un grand désordre, une inexprimable confusion. Beaucoup, abandonnant les rangs, se répandirent dans la ville, distante d'un kilomètre, se dispersèrent dans les cabarets voisins. Pendant plus d'une heure, les clairons sonnèrent leur ralliement. Des cavaliers furent envoyés à la ville pour en ramener les fuyards. Ils s'attardèrent à boire. Le bruit courait qu'un train, formé à Nogent-le-Rotrou, devait nous prendre et nous conduire à Chartres, menacés par les Prussiens, lesquels avaient, disait-on, saccagé Maintenon et campaient à Jouy. Un employé, interrogé par notre sergent, répondit qu'il ne savait pas, qu'il n'avait entendu parler de rien. Le général, petit vieux, gros, court et gesticulant, qui pouvait à peine se tenir à cheval, galopait de droite et de gauche, voltait, roulait comme un tonneau sur sa monture, et la face violette, la moustache colère, répétait sans cesse « Oh bougre, oh bougre de bougre !» Il mit pied à terre, aidé par son ordonnance, s'embarrassa les jambes dans les courroies de son sabre qui traînait sur le sol, et appelant le chef de gare, il engagea un colloque des plus animés avec celui-ci, dont la physionomie s'ahurissait. « Eh le maire ! » cria le général. « Mais où est-il ce bourreau-là ? Allez, qu'on me l'amène ! Est-ce qu'on se fout de moi, ici ?» Il soufflait, bredouillait des mots inintelligibles, frappait la terre du pied, invectivait le chef de gare. Enfin, tous les deux, l'un la mine très basse, l'autre faisant des gestes furieux, finirent par disparaître dans le bureau du télégraphe, qui ne tarda pas à nous envoyer le bruit d'une sonnerie folle, acharnée, vertigineuse, coupée de temps en temps par les éclats de voix du général. On se décida enfin à nous faire ranger sur le quai par compagnie et on nous laissa là, sacs à terre, immobiles, devant les faisceaux formés. La nuit était venue, la pluie tombait, lente et froide, achevant de traverser nos capotes, déjà mouillées par les averses. De-ci, de-là, la voie s'éclairait de petites lumières pâles, rendant plus sombres les magasins et la masse des wagons que des hommes poussaient au garage. Et le monte-charge, debout sur sa plateforme tournante, profila dans le ciel son long cou de girafe effarée. À part le café rapidement avalé, le matin, nous n'avions rien mangé de la journée, et bien que la fatigue nous eût brisé le corps, bien que la faim nous tenaillât le ventre, nous nous disions consternés qu'il faudrait encore se passer de soupe aujourd'hui. Nos gourdes étaient vides, épuisées, nos provisions de biscuits et de lard, et les gourdons de l'intendance, égarés depuis la veille, n'avaient pas rejoint la colonne. Plusieurs d'entre nous murmurèrent, prononcèrent à haute voix des paroles de menace et de révolte. Mais les officiers qui se promenaient, mornes aussi, devant la ligne des faisceaux, ne semblèrent pas y faire attention. Je me consolai en pensant que le général avait peut-être réquisitionné des vivres dans la ville. Vain espoir, les minutes s'écoulaient. La pluie toujours chantait sur les gamelles creuses, et le général continuait d'injurier le chef de gare, qui continuait à se venger sur le télégraphe, dont les sonneries devenaient de plus en plus précipitées et démentes. De temps en temps, des trains s'arrêtaient, bondés de troupes. Des mobiles, des chasseurs à pied, débraillés, tête nue, la cravate pendante, quelques-uns ivres et le képi de travers, s'échappaient des voitures où ils étaient parqués, envahissaient la buvette ou bien se soulageaient en plein air impudemment. Ce fourmillement de têtes humaines, ce piétinement de troupeaux sur le plancher des wagons, partaient des jurons, des chants de Marseillaise, des refrains obscènes qui se mêlaient aux appels des hommes d'équipe, au tintement de la clochette, à l'essoufflement des machines. Je reconnus un petit garçon de Saint-Michel, dont les paupières enflées suintaient, et qui toussait et crachait le sang. Je lui demandai où ils allaient ainsi. Bon, il n'en savait rien. Partis du Mans, ils étaient restés 12 heures à Conneré, à cause de l'encombrement de la voie, sans manger, trop tassés pour pouvoir s'allonger et dormir. C'était tout ce qu'ils savaient. À peine s'il avait la force de parler. Il était allé à la buvette afin de tremper ses yeux dans un peu d'eau tiède. Je lui serrai la main et il me dit qu'à la première affaire, il espérait bien que les Prussiens le feraient prisonnier. Et le train s'ébranlait, se perdait dans le noir, emmenant toutes ces figures graves, tous ces corps déjà vaincus, vers quelles inutiles et sanglantes boucherie. Je grelottais. Sous la pluie glacée qui me coulait sur la peau, le froid m'envahissait. Il me semblait que mes membres s'ankylosaient. Je profitais d'un désarroi causé par l'arrivée d'un train pour gagner la barrière ouverte et m'enfuir sur la route, cherchant une maison, un abri où je puisse me réchauffer, trouver un morceau de pain, je ne savais quoi. Les auberges et cabarets près de la gare étaient gardés par des sentinelles qui avaient ordre de ne laisser entrer personne. À 300 mètres de là, j'aperçus des fenêtres qui luisaient doucement dans la nuit. Ces lumières me firent l'effet de deux bons yeux, de deux yeux pleins de pitié qui m'appelaient, me souriaient, me caressaient. C'était une petite maison isolée à quelques enjambées de la route. J'y courus. Un sergent, accompagné de 4 hommes, était là, qui vociférait et sacrait. Près de l'âtre sans feu, je vis un vieillard, assis sur une chaise de paille très basse, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Une chandelle qui brûlait dans un chandelier de fer éclairait la moitié de son visage, creusé, raviné par des rides profondes. « Mais demanderas-tu du bois, enfin ?» cria le sergent. « Mais jour point de bois, répondit le vieillard. « V'là 8 jours que la troupe passe, je vous dis, mon tout prix. » Il se tassa sur sa chaise et d'une voix faible, il murmura. « Mais jour rien, 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 rien. » Le sergent haussa les épaules. « Ne fais donc pas le malin, vieille canaille. » Ah, tu caches ton bois pour chauffer les Prussiens. Eh bien, je vais t'en fiche, moi, des Prussiens. Attends. Le vieillard branla la tête. Mais puisque j'en point de bois. D'un geste colère, le sergent commanda aux hommes de fouiller la maison. Du cellier au grenier, ils passèrent tout en revue. Il n'y avait rien, rien que des traces de violence, des meubles brisés. Dans le cellier, humide de cidre répandu, les tonneaux étaient défoncés et partout s'étalaient de hideuses et puantes ordures. Cela exaspéra le sergent, qui frappa le carreau de la crosse de son fusil. « Allons !» s'écria-t-il. « Allons, vieux salaud ! Dis-nous où est ton bon roi ?» Et il secoua rudement le vieillard, qui chancela et faillit tomber la tête contre le lardier de fer de la cheminée. « Bonjour, point de bouée !» répéta simplement le pauvre homme. « Oh, tu t'entêtes, ah, tu n'as point de bois. Eh bien, tu as des chaises, un buffet, une table, un lit. Si tu me dis pas où est ton bois, je fais une flambée de tout ça. » Le vieillard ne protesta pas. Il répéta de nouveau, hochant sa vieille tête blanche, « Bonjour, point de bouée !» Je voulus m'interposer et balbutier quelques mots, mais le sergent ne me laissa pas achever. Il m'enveloppa des pieds à la tête d'un regard méprisant. « Bon, qu'est-ce que tu fous, toi, ici, espèce de galopin ?» me dit-il. « Qu'est-ce qui t'a permis de quitter les rangs, sale morveux ? Allons demi-tour et au pas de gymnastique. Da-da-da-da-da-da-da !» Alors il donna un ordre, et en quelques minutes, chaises, tables, buffets, lits furent mis en pièces. Le bonhomme se leva avec effort, se rencogna dans le fond de la chambre, et pendant que flambait le feu, pendant que le sergent, dont la capote et le pantalon fumaient, se chauffait en riant devant le brasier crépitant, le vieux regardait brûler ses derniers meubles d'un œil stoïque et ne cessait de répéter avec obstination « Mais j'ai au point de bouée !» Je regagnai la gare. Le général était sorti du bureau du télégraphe, plus animé, plus rouge, plus colère que jamais. Il bredouilla quelque chose et aussitôt il se vit un grand remuement. On entendait des cliquetis de sabres, des voix s'appelaient, se répondaient, des officiers couraient dans toutes les directions. Et le clairon sonna. Sans rien comprendre à ce contre-ordre, il nous fallut remettre sac au dos et fusil sur l'épaule. « En avant, arche !» Les membres raidis par l'immobilité et la tête bourdonnante, nous heurtant l'un à l'autre, nous reprîmes notre course haletante, sous la pluie, dans la boue, à travers la nuit. À droite et à gauche, des champs s'étendaient, noyés d'ombre, nous s'élevaient des tignasses de pommiers qui semblaient se tordre sur le ciel. Parfois, très loin, un chien aboyait. Puis c'étaient des bois profonds, de sombres futaies qui montaient de chaque côté de la route comme des murailles. Puis des villages endormis où nos pas résonnaient plus lugubrement, oui, où par les fenêtres vite ouvertes et vite refermées apparaissait la vision vague d'une forme blanche, terrifiée. Et encore des champs, et encore des bois, et encore des villages. Pas une chanson, pas une parole. Un silence énorme rythmé par un sourd piétinement. Les courroies du sac m'entraient dans la chair. Le fusil me faisait l'effet d'un fer rouge sur l'épaule. Un moment, je crus que j'étais attelé à une grosse voiture embourbée, chargée de pierres de taille, et que des charretiers me cassaient les jambes à coups de fouet. Marc-boutant sur mes pieds, l'échine pliée en deux, le cou tendu, étranglé par le licol, la poitrine sifflante, je tirais. Il arriva bientôt que je n'eus plus conscience de rien. Je marchais machinalement, engourdi, comme dans un rêve. D'étranges hallucinations passaient devant mes yeux. Je voyais une route de lumière qui s'enfonçait au loin, bordée de palais et d'éclatantes girandoles. De grandes fleurs écarlates balançaient dans l'espace leurs corolles aux hautes tiges flexibles, et une foule joyeuse chantait devant des tables couvertes de boissons fraîches et de fruits délicieux. Des femmes dont les jupes de gaze bouffaient dansaient sur les pelouses illuminées, au son d'une multitude d'orchestres, tapis dans les bosquets, aux feuilles retombantes, étoilées de jasmin, rafraîchies par les jets d'eau. « Halte !» commanda le sergent. Je m'arrêtai, et pour ne point m'écrouler sur le sol, je dus me cramponner au bras d'un camarade. Je m'éveillai. Tout était noir. Nous étions arrivés à l'entrée d'une forêt, près d'un petit bourg où le général et la plupart des officiers allèrent se loger. La tente dressée, je m'occupais de panser mes pieds écorchés avec de la chandelle que je gardais en réserve dans ma musette, et comme un pauvre chien exténué, je m'allongeais sur la terre mouillée et m'endormis profondément. Pendant la nuit, des camarades tombés de fatigue sur la route ne cessèrent de rallier le camp. Oh, il y en eut 5 dont on n'entendit plus jamais parler. À chaque marche pénible, cela se passait toujours ainsi. Quelques-uns, faibles ou malades, s'abattaient dans les fossés et mouraient là. D'autres désertaient. Le lendemain, le réveil sonna dès le lever de l'aube. La nuit avait été très froide. Il avait cessé de pleuvoir et, pour dormir, nous n'avions pu nous procurer la moindre litière de paille ou de foin. J'eus beaucoup de difficulté à sortir de la tente. Un moment, je dus me traîner sur les genoux, à 4 pattes, les jambes refusant de me porter. Mes membres étaient glacés, raides ainsi que des barreaux de fer. Il me fut impossible de relever la tête sur mon cou paralysé, et mes yeux, qu'on eût dit piqués par une multitude de petites aiguilles, ne discontinuaient pas de pleurer. En même temps, je ressentais aux épaules et dans les reins une douleur vive, lancinante, intolérable. Mais je remarquais que les camarades n'étaient pas mieux partagés que moi. Les traits tirés, le teint terreux, ils s'avançaient, les uns boitant affreusement, les autres courbés et vacillants, butant à chaque pas contre les touffes de bruyère, tous éclopés, lamentables et boueux. J'en vis plusieurs qui, en proie à de violentes coliques, se tordaient et grimaçaient en se tenant le ventre à deux mains. Quelques-uns, secoués par la fièvre, claquaient des dents. Autour de soi, on entendait des toux sèches, déchirant des poitrines, des respirations haletantes, des plaintes, des râles. Un lièvre détala de son gîte, s'enfuit effaré, les oreilles couchées. Peu personne ne songea à le poursuivre, comme nous faisions autrefois. L'appel terminé, il y eut distribution de vivres, car l'intendance avait fini par retrouver la brigade. Nous fîmes la soupe que nous mangeâmes aussi gloutonnement que des chiens affamés. Je souffrais toujours. Après la soupe, j'avais eu un étourdissement, bientôt suivi de vomissements, et je grelottais la fièvre. Tout autour de moi tournait. Les tentes, la forêt, la plaine, le petit bourg là-bas dont les cheminées fumaient dans la brume, et le ciel où roulaient de gros nuages crasseux et bas. Je demandai au sergent la permission d'aller à la visite. Les tentes s'alignaient sur deux rangs, adossées à la forêt, de chaque côté de la route de Senonche, qui débouche dans la campagne par une magnifique trouée dans les chênes, traverse à 300 mètres de là la route de Chartres, et plus loin le bourg de Belle-Omère, pour continuer son cours vers la Loupe. Au carrefour formé par ces deux routes, une petite maison s'élevait, misérable, et couverte de chaume, sorte de hangar abandonné qui servait d'abri aux cantonniers pendant la pluie. C'est là que le chirurgien avait établi une ambulance improvisée, reconnaissable au drapeau de Genève planté dans une fente de mur qui la décorait. Devant la maison, beaucoup attendaient. Une longue file d'êtres blêmes exténués, ceux-ci debout avec de grands yeux fixes, ceux-là assis par terre, mornes, les omoplates remontées et pointues, la tête dans les mains. La mort, déjà, avait appesanti son horrible griffe sur ses visages émaciés, ses dos décharnés, ses membres qui pendaient, vidés de sang et de moelle. Et en présent de ce navrement, oubliant mes propres souffrances, je m'attendris. Ainsi, 3 mois avaient suffi pour terrasser ces corps robustes, domptés au travail et aux fatigues pourtant. 3 mois. Et ces jeunes gens qui aimaient la vie, ces enfants de la terre qui avaient grandi, rêveurs dans la liberté des champs, confiant la bonté de la nature mourricière, c'était fini d'eux. Au matin, aux marins qui meurent, on donne la mer pour sépulture. Il descend dans le noir éternel au balancement de ces vagues musiciennes. Mais eux, encore quelques jours peut-être, et tout à coup ils tomberaient, ces 20 nu-pieds, la face contre ce sol, dans la boue d'un fossé, charogne livrée aux crocs des chiens rôdeurs, au bec des oiseaux nocturnes. J'éprouvais un sentiment de si fraternelle et douloureuse commisération que j'eusse voulu serrer tous ces tristes hommes contre ma poitrine dans un même embrassement. Et je souhaitais, oh, avec quelle ferveur je le souhaitais, d'avoir comme Isis, sans mamelles de femme, gonflées de lait pour l'étendre à toutes ses lèvres exsangues. Ils entraient un peu dans la maison, un par un. Ils en ressortaient aussitôt, poursuivis par un grognement et par un juron. D'ailleurs, le chirurgien ne s'occupait pas d'eux. Très en colère, il réclamait à un infirmier sa pharmacie de campagne qui n'avait pas été retrouvée parmi les bagages. « Mais ma pharmacie, nom de Dieu » cria-t-il. « Où est ma pharmacie? Et ma trousse? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma trousse? Oh, nom de Dieu !» Un petit mobile qui souffrait d'un abcès au genou s'en retourna à cloche-pied, pleurant, s'arrachant les cheveux de désespoir. On n'avait pas voulu le visiter. Quand ce fut mon tour de passer, je tremblais très fort. Dans le fond de la pièce sombre, 4 malades râlaient, couchés sur la paille, en chien de fusil. Un 5e gesticulait, prononçant dans le délire des mots incohérents. Un autre encore, à demi levé, la tête inclinée sur la poitrine, se plaignait, demandait à boire, d'une voix faible, d'une voix d'enfant. Accroupi devant la cheminée, un infirmier présentait à la flamme, au bout d'une baguette de bois, un morceau de boudin grésillant, dont l'odeur de graisse brûlée empuantissait la chambre. L'aide-major ne me regarda même pas. Il vociféra « Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Mais tant de flemmards! 10 lieues dans les guibolles, le clampin, ça te remettra! Allons, marchez, demi-tour !» Je croisais sur le seuil une paysanne qui me demanda « C'est-il bien ici, quel chirurgien ?»« On leur défame maintenant, » grogna l'aide-major. « Mais qu'est-ce que vous voulez, vous ?» « Pardon, excusez, monsieur le chirurgien, » reprit la paysanne, qui s'avança très intimidée. « Je viens pour mon fils, que soldat. »« Mais dites donc, la vieille, est-ce que je suis chargé de garder votre fils, moi ?» Les deux mains croisées sur le manche de son parapluie, toute craintive, elle examina la pièce autour d'elle. « Pareil qu'il est ben malade, mon fils, ben malade. Alors pour l'heure, je vais voir si vous n'y aviez point quant à vous, monsieur le chirurgien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle la femme Riboulot. »« Oh, Riboulot, c'est possible. Voyez dans le temps, là. » L'infirmier qui faisait griller son boudin tourna la tête. « Ah oui, Boulot, oh, dit-il, ben, il est mort il y a 3 jours. »« Comment que vous dites ça ?» cria la paysanne dont la figure a allé, tout à coup pâlie. « Où ça qu'il est mort? Pourquoi qu'il le boit, mon petit gars? L'aide-major intervint et poussa la vieille vers la porte d'un geste brutal. Allons, allons, cria-t-il, allons, pas de scène ici, hein? Il est mort, ben voilà tout. Mon petit gars, gémissait la paysanne à fendre l'âme. Je m'éloignais, le cœur gros, et si découragé que je me demandais s'il ne valait pas mieux en finir tout de suite, en me pendant à une branche d'arbre ou en me faisant sauter la cervelle d'un coup de fusil. Tandis que je regagnais la tente, trébuchant, roulant dans ma tête les plus noirs projets, à peine si je fis attention au petit mobile, qui s'étant arrêté au pied d'un pin, avait lui-même ouvert son abcès avec son couteau, et tout blanc, le front ruisselant de sueur, bandait la plaie d'où le sang coulait. La matinée me fut meilleure que je ne l'aurais pensé. J'eus la chance de ne faire partie d'aucune corvée, et après avoir astiqué mon fusil, rouillé par la pluie, je goûtai quelques heures de bon repos. Étendu sur ma couverture, le corps tout engourdi dans un demi-sommeil délicieux, où je percevais distinctement les bruits du camp, les sonneries du clairon, le hennissement d'un cheval au loin, je songeais aux êtres et aux choses que j'avais quittées. Mille figures et mille paysages défilaient rapidement devant mes yeux. Je revis le prieuré, ma mère morte et mon père, avec son large chapeau de paille, et le petit mendiant aux cheveux filasses, et Félix accroupi dans les plates-bandes, au milieu des laitues qui guettaient une taupe. Je revis ma chambre d'étudiant, mes camarades de l'école, et dominant le tumulte de Bullier, Nini, grise et défrisée, avec ses lèvres pourpres, son chignon roux et ses bas roses, sortant, fleurs lascives, des jupes soulevées par la danse. Puis l'image d'une femme inconnue en robe mauve, que j'avais aperçue un soir au théâtre, dans l'ombre d'une loge, me revint, obstinée, douce vision. Pendant ce temps, les plus valides d'entre nous étaient allés rôder dans la campagne, autour des fermes. Ils rentrèrent gaiement, chargés de bottes de paille, de poulets, de dindes, de canards. L'un poussait devant lui à coups de gaule un gros cochon qui grognait. L'autre balançait un mouton sur ses épaules. Celui-ci traînait au bout d'une hâte tordue en corde un veau qui résistait comiquement, secouait son mufle en meuglant. Et les paysans accoururent au camp pour se plaindre d'avoir été volés. On les hua et on les chassa. Le général, accompagné de notre lieutenant-colonel, qui se tenait à sa droite, très raide, l'œil rond, vint nous passer en revue l'après-midi. Son regard luisant, son teint de braise, sa voix pâteuse, disait qu'il avait copieusement déjeuné. Il mâchonnait un bout de cigarette éteint, crachait, s'ébouait, maugréait et ne savait contre qui et contre quoi, car il ne s'adressait à personne directement. Devant notre compagnie, il regarda le lieutenant-colonel d'un air sévère et je l'entendis qui grommelait « Sale gueule, vos hommes, oh bougre !» Puis il s'éloigna, pesant de tout le poids de son ventre sur ses jambes courtes, chaussée de bonnes jaunes au-dessus desquelles la culotte rouge bouffait et plissait comme une jupe. Le reste de la nuit fut... Non. Le reste de la journée. Pourquoi la nuit? Numéro 1. Le reste de la journée fut consacré à des flâneries dans les auberges de Bellomé. Il y avait partout un tel encombrement, un tel tapage. D'ailleurs, je connaissais trop bien ces prises d'assaut des cabarets, ces poussées violentes de l'alcool qui dégénéraient souvent en mêlée générale, que je préférais m'en aller avec quelques camarades paisibles sur la route loin des bagarres. Justement, le temps s'était embelli, un soleil pâle tombait du ciel débarrassé de nuages. Nous nous assîmes sur un talus, ployant le dos sous les rayons réchauffants, comme fait un chat sous la main qui le caresse. Des voitures passaient, passaient toujours, lourdes charrettes, banneaux, carrioles coiffées de leurs bâches, tombereaux traînés par des bardeaux. C'étaient des paysans de la plaine de Chartres qui fuyaient les Prussiens. Affolés par les récits, colportés de village en village, des incendies, des viols, des massacres, des atrocités diverses dont les Allemands infligeaient les territoires envahis, ils avaient emporté à la hâte ce qu'ils possédaient de plus précieux, abandonné champs et maisons et tout effaré, ils allaient droit devant eux sans savoir où. Le soir, ils s'arrêtaient au hasard du chemin près d'un bourg, quelquefois en rase campagne. Les chevaux, dételés et entravés, broutaient l'herbe des berges. Les gens mangeaient et dormaient à la grâce de Dieu, à la garde des chiens, dans le vent, dans la pluie, dans la froidure des nuits brumeuses. Puis le lendemain, ils repartaient. Troupeaux de bêtes et troupeaux d'hommes se succédèrent interminablement. Ils passaient, et sur la grande route jaune, on en voyait s'allonger la file noire et dolente des fuyards, jusqu'à la montée fermant l'horizon. On eût dit l'exode d'un peuple. J'interrogeais un vieux bonhomme qui conduisait une voiture à ânes, au fond de laquelle, dans la paille, au milieu de paquets noués avec des mouchoirs, de carottes et de choux, grouillait une paysanne à nez camu, deux pans roses et des coupes de volaille liées par les pattes. « Vous avez donc les Prussiens chez vous ?» demandai-je. « Oh, les brigands !» répondit le vieux, « ne m'en parlez point. Ils sont arrivés un matin, une bande avec des chapiots à plumes. Ils ont fait un vacarme, oh Jésus-Dieu. Et puis, poil et tout, alors de bon, j'aurais cru que c'était les Prussiens. J'en suis de pique, c'était des francs-tireux. Mais les Prussiens, oh, pour ce qui est des Prussiens, j'en point vu de Prussiens sans ces bancs. Ils doivent être chez nous, à cette heure, la Jacqueline craint qu'il en a vu un l'autre jour derrière une haie. Il était haut et puis rouge, que disait, rouge comme le diable. C'est donc des enragés, des sauvages, des revenants, enfin quoi que c'est au juste. Bien, ce sont des Allemands, madame, comme nous, nous sommes des Français. Des Allemands, j'entends bien, mais quoi qu'il vous vaut, ces sacrés Allemands-là, dites monsieur le militaire. J'ai tout de même en sauvé nos deux cochons et notre fille, et puis de la volaille et tout, mesdames. Et le paysan continua son chemin en se répétant « des Allemands, quoi qu'il nous faut, vaut ces sacrés Allemands-là. » Ce soir, devant toute la ligne du camp, les feux s'allumèrent et les bornes marmites pleines de viande fraîche chantèrent joyeusement au-dessus des fourneaux improvisés de terre et de cailloux. Ce fut pour nous une heure de détente exquise et de délicieux oubli. Un apaisement semblait venir du ciel tout bleu de lune et tout brillant d'étoiles. Les champs, qui s'étendaient avec des molles ondulations de vagues, avaient je ne sais quelle douceur attendrie qui nous pénétrait l'âme, coulait dans nos membres endoloris un sang moins âcre et des forces nouvelles. Peu à peu s'effaçait le souvenir, pourtant si proche, de nos désolations, de nos découragements, de nos martyrs, et le besoin d'agir nous reprenait en même temps que s'éveillait en nous la conscience du devoir. Une animation inusitée régnait au camp. Chacun s'empressait à quelque besogne volontaire. Les uns couraient, un tison à la main pour allumer les feux éteints, d'autres soufflaient sur les braises afin de les aviver, ou bien épluchaient des légumes et coupaient des morceaux de viande. Des camarades, formant une ronde autour de débris de bois fumant, entonnèrent d'une voix gouailleuse « As-tu vu, Bismarck ? La révolte, fille de la faim, se fondait au ronron des marmites, au cliquetis des gamelles.